Chapitre 3. J'entendis le pseudo-chou qui traversait les cailloux pointus de la cour, qui faisait claquer le pêne de bois de la porte sur la rue. Lucie m'embrassa avec une sorte de ferveur. « Et dire que sans toi, s'écria-t-elle, la petite Mariette aurait encore cette bague pendue au cou et que toute cette histoire serait restée dans l'œuf. » Avec sa rapidité féminine, Lucie définissait ainsi les choses en un mot. « Veux-tu, lui dis-je, que nous reprenions les détails ?»« Je veux bien. Pourquoi lui as-tu parlé de la guerre ?»« D'abord, j'ai deviné une espèce d'embusquée, ceux qui se font blesser à l'oreille, rien qu'à la façon dont il m'a parlé de ma blessure à moi. Tu ne prendras jamais un vrai poilu à dire à un aveugle de guerre « Vous avez offert vos yeux à la patrie. » Non, ça sonne faux. Mais il y a la question des outils. Tu m'as dit, quand nous sommes sortis de notre chambre, il a les mains derrière le dos. Ça, c'était trop. Cela signifiait qu'il nous faisait bien remarquer qu'il ne touchait à rien. Donc, il avait touché à mes outils dans l'intervalle. Pourquoi faire? Il pensait que peut-être la bague se trouvait là, dans une petite boîte ou dans le petit tiroir. Il ne nous croit qu'à moitié. Aurait-il pris un outil? Suggéra Lucie. Non, il n'a pas besoin d'outils. Il avait ce qu'il fallait si c'est lui qui a déchassé les pierres. De ces petits outils qu'on avait dans la tranchée pour travailler le cuivre et l'aluminium. Mais à mon tour de questionner. Pourquoi, Lucie, m'as-tu soufflé de lui parler encore du veau bleu? Parce que, dès que tu as dit ce nom, il a serré les lèvres comme pour s'empêcher de parler et il a promené ses doigts sur sa moustache pendant au moins 10 secondes d'un air indécis, presque effrayé. « Tu vois comme tout ça plaque, » dis-je enchanté. « La bague, l'impasse du veau bleu, où Mariette trouva la bague, la seule fenêtre d'une chambre de voyageurs, d'où la bague puisse être tombée dans l'impasse. » « Lancée par qui ? Pas par le voyageur. » On ne jette pas par la fenêtre 96 francs de platine. La femme de chambre secoue les tapis, brosse les habits par la fenêtre, suggéra Lucie d'une voix lente, comme si une image se formait dans son esprit. Écoute, m'écriai-je, va tout de suite faire une petite visite à Madame Marceau. Trouve un prétexte, emprunte des clous de girofle. Fais-la causer, ce n'est pas difficile. Renseigne-toi sur tous les voyageurs qui, depuis 3 semaines, ont occupé la chambre dont la fenêtre donne sur l'impasse. Nous tenons là un fil très important. Pourrais-tu faire la description de notre soi-disant chou? A-t-il, comme on dit sur les passeports, des signes particuliers? Il a une dent d'or sur le devant, à gauche, on la voit quand il parle, dit Lucie, après avoir réfléchi un instant. Je ne m'y fierai pas beaucoup à cette dent d'or. Rien n'est plus facile à truquer. Avec une petite feuille de cette étain dorée dont on enveloppe les bonbons, tu couvres une dent à s'y méprendre. Gagerais-tu que le véritable Lucien Chou a une dent d'or à gauche? Celui-ci aura voulu mettre ce point de ressemblance dans son jeu. Tu m'as dit, n'est-ce pas, qu'il est assez élégant dans sa mise? Très élégant et bien chaussé, et tout assorti en vert et havane, la chaussette, la cravate et le mouchoir de soie qui montre un coin. Mais tu m'as dit il y a un moment qu'il n'avait pas d'épingle de cravate. Notre jeune visiteur est dans la purée, déclarai-je, car avec ses petites recherches dans la mise, il devrait avoir une belle épingle de cravate. Il a vendu ou mis en gage ce qu'il avait d'objet de valeur. Pas de bague, pas de montre. Pas de bague en tout cas, pas de montre, je ne sais, il porte le veston croisé. Lucie m'ayant quitté pour aller chez Madame Marceau faire sa petite enquête, je restai à me promener de long en large, tout en triant et assortissant dans mon esprit, et mettant en place les menus fêtes qui étaient venus s'ajouter aux précédents. Cette dent d'or augmentait mes soupçons, voici pourquoi. Notre visiteur était jeune, élégant. S'il avait un dentiste, c'était un bon dentiste. Or, un dentiste moderne ne fait plus de dents d'or, surtout pour le devant. On raccommode une dent avec de l'émail porcelaine qui ne se voit pas. Cette dent d'or si apparente était de la frime, soit pour nous donner le change, soit pour appeler un trait d'un visage qu'on voulait imiter. Enfin, tout s'ordonnait comme ces patiences de petits morceaux où, peu à peu, le tableau complet se laisse deviner. J'avais déjà 5 personnages. Monsieur, madame, la femme de chambre, le cafetier, le jeune élégant. J'attendais avec impatience le retour de Lucie. Elle fut bien absente 1 heure. Quand elle rentra, elle me dit « Je n'ai pas appris grand-chose. Madame Marceau s'occupe peu des voyageurs, comme tu sais. Son mari est à ses fourneaux, et figure-toi, quelle malchance! Léonie, qui fait les chambres, est partie hier chez sa mère. Il n'y a qu'elle qui aurait pu me renseigner. J'ai quand même trouvé moyen de voir le livre des voyageurs. J'ai dit comme ça, Madame Marceau, « N'avez-vous pas logé dernièrement un voyageur de commerce ?» Monsieur Julien Pernaud, tu comprends, j'inventais au fur et à mesure. Mon mari voudrait savoir si peut-être il aurait laissé une adresse. Ce n'est pas mentir, n'est-ce pas, François ? Fit ma scrupuleuse Lucie. Pas du tout, je donnerai quelque chose pour avoir son adresse. Alors Madame Marceau m'a dit, tu sais, petite, pour le nom des voyageurs, ma mémoire, c'est une passoire à gros trous. Prends le livre là sur le pupitre et cherche toi-même. Nous n'avons pas eu beaucoup de monde ces derniers temps. Comme ça, lui ai-je fait, la chambre du second sur la ruelle, qui est la moins bonne de vos chambres, n'a pas dû être occupée. Au contraire, je crois bien qu'elle a été occupée chaque semaine. Elle est à 4 francs et les meilleures à 6 francs. Léonie y met les purotins, ceux qui ne mangent même pas dans la maison. Je feuilletais le livre. Voilà une drôle d'écriture que je dis à Madame Marceau en lui montrant un nom impossible à lire. Est-ce que la première lettre est un H ou L, un I-L ? C'est vrai que je serais bien embarrassée de lire ce nom, me dit Madame Marceau en se penchant. Tu vois dans la colonne des numéros des chambres qu'il a logé au numéro 8. C'est justement la chambre à 4 francs. Si Léonie était ici, elle te donnerait tous les détails, elle remarque tout. En tout cas, ce nom ne peut pas être celui que tu as dit. Julien Pernaud, ce n'est pas sûr. Regardez, ce grand trait, c'est un L. Et puis, tous ces petits traits qui courent après, ça peut faire un Julien. Je disais tout cela pour allonger. Mais il n'y aurait que Léonie qui pourrait vraiment nous renseigner. Une chose sûre, c'est que le voyageur du 8 a gribouillé son nom exprès de façon à ce qu'on ne puisse pas le reconnaître. « À quelle date a-t-il passé ? » demandai-je vivement, car je sentais que nous touchions. « Il y a 15 jours. »« Ah bon, voilà qui plaque aussi, car tu comprends que si ce jeune homme avait logé au Veau-Bleu il y a 4 semaines, il n'aurait pas été en possession de la bague qui a été volée il y a 3 semaines seulement. » « J'espère bien que tu ne fais pas fausse route, » dit Lucie d'un ton songeur. « Ce jeune homme m'a remis sa carte, qui porte pourtant le nom et l'adresse exacte de M. Lucien Choux. » Il n'y a rien de plus facile que de faire imprimer une carte de visite à n'importe quel nom, » répondis-je. « Ce jeune inconnu me croit bien négo s'il pense me convaincre de son identité par une carte de visite. Mais dis-moi, Lucie, est-ce que Léonie a quitté sa place définitivement ?» Non, non, elle est allée voir sa mère et qui est souffrante. Madame Marceau compte bien qu'elle rentrera peut-être déjà demain. Que ne le disais-tu ? Dès qu'elle sera rentrée, invite-la à venir causer un moment chez nous. Maintenant, j'ai 4 lettres à écrire pour que tous les intéressés soient au rendez-vous, mardi à 3 heures. Tous les intéressés ensemble ? S'écria Lucie. Mais oui, ils s'expliqueront. Je ne vois pas d'autre moyen. Monsieur Lucien Choux, Madame Lucien Choux, Mademoiselle Alphonsine Drouin, le plongeur du Café des Commerces réunis et le jeune héros des tranchées. Tous ici, mardi à 3 heures. Et veux-tu que je te prédise dans quel ordre et par quels moyens ils arriveront ? Monsieur Lucien Choux arrivera le premier, juste à l'heure, parce qu'il possède une auto et il aura dit à sa femme « J'ai besoin de l'auto cet après-midi ». Madame aura pris une auto dans un garage, elle ne tient pas d'ailleurs à ce que le chauffeur de son mari soit au courant de ce voyage à Garla, Seine-et-Oise. Mademoiselle Alphonsine ne peut pas être ici avant 3h10, puisque son train entre en gare de Garla à 3h05. Le plongeur, s'il vient, sera dans le même train. Je ne suis pas trop sûr du plongeur, car tu te souviens qu'il demandait 500 francs pour faire des révélations. Je lui écrirai que, s'il vient, il obtiendra probablement une récompense. Ce sera l'affaire de M. Lucien Choux. » Et le jeune héros, comme tu dis, quand arrivera-t-il ? Demanda Lucie, dont la confiance dans les pouvoirs de divination était touchante et complète. Je me figure qu'il viendra le premier. Dès que chacun sera là, Lucie, tu auras soin de fermer discrètement, à clé, à double tour, les deux portes de la salle, celle qui donne sur la cour et celle qui donne sur notre chambre. Car je me trompe fort, ou le héros des tranchées voudra nous fausser compagnie. Tiens, une idée, si j'écrivais à mon frère Henri de venir nous prêter main forte. Parce que moi, n'est-ce pas, dans une bagarre, je risque de me tromper. Ça me faisait donc une cinquième lettre. Je me mis tout de suite à ma Remington et je convoquai tous les figurants à peu près dans les mêmes termes. Pour l'affaire de la bague WT-1888, veuillez vous trouver mardi 16 courant à 3h de l'après-midi chez François Lecamp, 18 rue des Vernes, Garla, Seine-et-Oise. Vous aurez toute satisfaction. Quant à mon frère Henri, je lui disais simplement que j'avais besoin de lui et je savais que, pour ce brave cœur, c'était suffisant. « Il viendra, dis-je à Lucie, par le même train que la femme de chambre et le plongeur. »« Non, dit Lucie, cette fois plus perspicace que moi. » Il viendra plus tôt pour être assez tôt. Je le connais. Je mettrai son couvert à midi. Nous n'avions donc, les 5 lettres parties, qu'à nous tenir tranquilles après nous être assurés d'avoir 8 ou 9 sièges disponibles. C'était un problème. Le dimanche après-midi, Lucie décida qu'elle irait emprunter 3 chaises convenables au veau bleu et en même temps s'informer du retour de Léonie. J'irai avec toi pour apporter les chaises, lui dis-je. « Non, tu connais Madame Marceau, elle est un peu susceptible. Il ne faut pas avoir l'air trop sûr qu'elle nous prêtera les chaises. Je fais ma petite visite et puis je dis « Puisque vous êtes si obligeante, Madame Marceau, je vais chercher mon mari qui emportera les chaises. »« Que les femmes sont compliquées, dis-je, comme tu voudras. »